Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MakingStarWarsFrance.net et Génération Star Wars et Science-Fiction.
A long time ago, in a galaxy far, far away,
there has been an awakening. Have you felt it?
A communications disruption can mean only one thing.
That thing's operational.
Hello, hello, and welcome to
Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.
The force is strong in this one.
Hello, what have we here?
Nice of you guys to drop by.
We would be honored if you would join us.
May the force be with us.
Bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition numéro 5 déjà de Star Wars Making Of, qui aura aujourd'hui pour sujet le tournage de l'Empire Contre-Attaque. Bonjour Margot.
Bonjour Martin.
Comment vas-tu?
Mais ça va plutôt bien, je me suis fait opérer des dents de sagesse, voilà, donc je vous parle enflé, la mâchoire verte, mais je suis heureuse d'être là.
Tu ressembles à Maître Yoda, ce qui explique parfois qu'on n'a pas pu enregistrer tout de suite non plus cette émission.
La mâchoire seulement.
Voilà, tout à fait. Tout va bien en tout cas, ça va de mieux en mieux. Rassurez-vous, votre fidèle serviteur sera toujours là pour cette émission.
Exactement.
Donc, chère Margot, aujourd'hui nous allons évoquer l'épisode 5 et le tournage de l'épisode 5, qui, comme vous allez le comprendre, était aussi difficile que l'épisode 4. Ça promet encore des bons moments de franche rigolade. Margot, pourrais-tu peut-être remercier nos partenaires emblématiques?
Bien évidemment. J'aimerais remercier, au nom de notre belle équipe et de notre cher duo, Citclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, StarWarsUniverse.com, PlanetStarWars.com, MakingStarWarsFrance.net, Génération Star Wars et Science Fiction.
Eh bien, très chère Margot, es-tu prête à partir en hyperespace?
Nous pouvons entrer dans le vif du sujet.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Quelques jours avant le début du tournage, Lucas, Kirchner et Kasdan modifient toujours le script. Harrison Ford ne reçoit le script final que 3 semaines avant le démarrage, ce qui laisse peu de temps pour se préparer.
Et c'est surtout dire tout le talent de ce cher Harrison Ford, quand on sait le peu de temps de préparation dont il a disposé.
Tout à fait, toujours aussi fan Margot. Mark Hamill, de son côté, suit 4 mois de préparation intensive pour le rôle, apprenant la gymnastique, le karaté et le bodybuilding. C'était pas le moment de l'énerver.
Oui, bon, on peut dire que même s'il a eu une certaine préparation physique, celle-là n'est rien à côté de l'acteur Kylo Ren. Bref, parenthèse refermée.
Pardon.
J'ai beaucoup apprécié. Carrie Fisher rejoint les autres acteurs en Norvège le 28 février 1979. Après une sympathique visite, n'est-ce pas, de la ville de Oslo, un énorme bus apparaît pour emmener l'équipe de tournage à 6 heures de là, où le tournage aura lieu au beau milieu de la toundra. La météo, qui plus est très capricieuse, on ne voit pas à 2 mètres le samedi, alors que le début de tournage est prévu le lundi, soit 2 jours après. Le sauna fonctionne très bien, ce qui participe à la bonne humeur de l'équipe, mais il est impossible d'ouvrir les fenêtres prises par les glaces. Ben, penses-tu pas qu'on se croirait au Québec, là? C'est pas incroyable, ça?
Tout à fait, nos amis du Québec nous envoient leur brise légère. La Norvège affronte en réalité son pire hiver depuis 100 ans.
Ha, voilà. Comme c'est drôle.
Voilà, tout à fait. Pour la petite histoire, nous avons vécu un hiver au Québec, le pire depuis 125 ans. Bon, bref. Le lundi débute donc un tournage de 76 jours. Les trains sont bloqués par les températures et 2 avalanches, eh bien, arrivent près de l'hôtel. Ce qui a de quoi rassurer tout le monde. Lucas avait bien fait de donner ce conseil au réalisateur. Ne t'attends pas à ce que tout fonctionne.
Effectivement.
3 crises cardiaques plus tard. Avec les avalanches, les décors et lieux de tournage sont ensevelis. Impossible donc de débuter le tournage comme prévu, ça sent bon tout ça.
Même recharger la caméra devient une expérience délicate, voire dangereuse, puisqu'elle peut casser, se briser avec de pareilles températures. Et même les spaghettis, tout juste sortis de la casserole, gèlent très très rapidement à moins 25 degrés.
On décide donc d'appeler Harrison Ford afin de tourner certaines scènes qui étaient prévues plus tard. Il est donc mis dans un avion de Londres vers Oslo. Il n'y a aucun transport qui amène de Oslo vers le lieu de tournage, mais à coup de bouteille de vodka offerte au conducteur, il est amené en train vers une autre ville, puis par l'intermédiaire de deux taxis différents. Harrison est donc un alcoolo.
Quel garçon dégourdi. Le lendemain matin, notre beau et cher Harrison Ford arrive en costume au studio, où une température de moins 25 degrés l'y attend. Il fait si froid que 2 à 3 minutes suffisent pour que les équipements gèlent et que tout le matériel soit inutilisable.
Tout à fait. Avec les 3 acteurs réunis, une franche camaraderie se développe avec les membres de l'équipe, obligés de se serrer les coudes dans de telles conditions.
Et oui, le froid s'approche.
Tout à fait. Le seul avantage réside dans le vent, qui modifie un même paysage chaque jour. Ainsi, plusieurs scènes sont tournées juste devant l'hôtel, car de toute façon, il est impossible de reconnaître l'endroit la veille.
Les scènes avec le Wampa se révèlent particulièrement compliquées. Il y a en réalité quelqu'un à l'intérieur du Wampa, qui est ce cher Charlie Webb, et il ne peut faire que quelques pas avant de s'arrêter de douleur sous le poids du costume, et on imagine que la brise que nous savons tourmenter là-bas n'a pas dû aider.
10 ans d'art dramatique pour ça. Le tournage avance et une semaine après le début du tournage, le 12 mars 1979, l'équipe des films repart vers la Grande-Bretagne. Même si les conditions dans le studio apparaissent comme un vrai paradis, Elstree n'est toujours pas prêt à recevoir l'équipe du fait de l'incendie dont nous avions parlé dans l'épisode précédent. Les hôtels à proximité ne sont plus et certains acteurs sont mieux lotis que d'autres. Quand Harrison Ford doit marcher simplement 30 minutes pour arriver au studio, Peter Mayhew, qui joue Chewbacca, doit être pris à 6h45 de son hôtel pour arriver à 8h.
Le droit des animaux. Lucas, qui lui n'a pas fait le déplacement en Norvège, rejoint l'équipe et vient visionner les rushs de Norvège. Paul Hirsch, le monteur, débute son activité. Il a l'air plutôt satisfait du résultat. Les premières scènes d'amour entre Anne et Leia dans les Faucons sont déjà tournées. Alors que dans le script, Leia s'extirpe simplement, on décide sur place que C-3PO interrompt le baiser.
Ce qui semble très crédible. Alors que Daniels rechigne à revenir pour l'épisode, son « amour du personnage » entre guillemets et son salaire tâcheront de le convaincre, son costume est cependant plus léger à porter. Mais il assure quand même avoir souffert sur le tournage, d'autant plus que Kershner veut faire de C-3PO un personnage à qui, dans la vraie vie, je cite, « nous tournerions le dos instantanément ».
Tiens, c'est curieux, il me semblait avoir reconnu les traits de ma belle-mère dans ses 3PO, dans son assistant persistant.
Ça lui sera dit et répété.
Oh, je rigole. Kenny Baker a certainement le plaisir de retrouver, lui, un R2-D2 beaucoup plus confortable. Le planning est rapidement modifié et on décide d'ajouter 4 à 5 semaines au planning. On se rappelle des prolongations qui avaient été très importantes pour l'épisode 4. Okay. L'équipe du film est considérablement renforcée par rapport au précédent, avec 300 personnes dans l'équipe, dans le staff, contre 210 pour Star Wars épisode 4.
La scène du Bacta et la guérison de Luke après sa scène avec le Wampa manque de le tuer 2 fois, décidément. En effet, l'équipe souhaite que la principale source de lumière provienne du Bacta lui-même. Une lumière est donc placée pour opérer cet effet avec un miroir au-dessus du Bacta, pour réfléchir la lumière sur toute la salle. La chaleur entraîne cependant une cassure du miroir par 2 fois, le verre pénétrant ainsi dans le tube. Fort heureusement, l'acteur n'y était pas puisque c'était un test, et on peut imaginer que ça aurait été fatal pour lui.
Le pauvre. La présence de Lucas est vue comme un point positif par Kershner. Je cite, « c'est comme si le créateur de jouets était présent, mais qu'il ne jouait pas avec eux. »
Un vrai humour anglais.
Oui. Cependant, quand les 2 hommes sont en désaccord, 2 versions sont systématiquement tournées.
Ce qui n'aide pas à avancer le planning.
Tout à fait.
Un nouvel acteur fait son apparition dans le film, c'est Jeremy Bullock, très connu des fans aujourd'hui, qui joue le rôle de Boba Fett. Le costume ne met que 20 minutes à être enfilé. S'il avait été dans l'épisode 4, ça aurait été tout autre. L'acteur est en réalité le demi-frère de Robert Watts, un des producteurs du film. Le réseau, le réseau. Carrie Fisher n'est pas au top de sa forme du fait d'une allergie contractée à l'odeur de peinture. et Billy Dee Williams rejoint également rapidement l'aventure.
Mark Hamill, de son côté, souffre plus de son entraînement au sabre laser que celui de gymnastique.
Tout à fait.
Le 28 mars 1979, Dark Vador fait son grand retour sur le plateau. Il s'agit, pour vous resituer dans le film, de l'invasion de la base rebelle de Hoth, qui se passe de manière beaucoup moins dramatique dans le film que n'est envisagé dans le scénario. Les deux cascadeurs déguisés en snowtroopers glissent sur le polystyrène suite à l'explosion du mur. David Prowse, voulant avancer, ne peut plus puisqu'un autre cascadeur marche sur sa cape. L'acteur voulant s'extirper tombe sur les cascadeurs devant. Cette scène est vraiment apocalyptique, mais heureusement, les monteurs nous l'ont épargné.
Voilà, ça aurait été une version très sympathique à voir aussi dans le film.
Une version d'anthologie, à n'en pas douter.
Les scènes de studio avec le Wampa se révèlent aussi compliquées qu'en Norvège. Le porteur du costume souffre ainsi systématiquement de crampes d'estomac, si bien que les scènes sont longues à mettre en place. Une est même supprimée, puisqu'à l'origine, le Wampa devait recevoir une roquette dans le ventre. Il avait déjà reçu la roquette dans la vraie vie, on s'est dit, pas la peine de le faire dans le film.
Une deuxième équipe de tournage est-elle restée en Norvège afin de filmer des séquences de bataille impliquant 43 figurants, paix à leurs âmes, et beaucoup de mannequins déguisés en soldats rebelles pour les explosions.
Celles-ci sont prévues en masse, mais le froid empêche systématiquement toute explosion. Et la météo empêche quant à elle toute continuité dans la bataille, si bien que le soleil apparaît dans un plan, puis plus du tout dans le suivant.
Au studio, les scènes de la Cité des Nuages commencent à être tournées à ce moment-là. Carrie Fisher se distingue par un mal-être constant, déjà présent en Norvège, et qui relevait en réalité, comme elle l'écrira beaucoup plus tard, de la prise d'hallucinogènes, d'antidouleurs et d'autres substances que nous n'évoquerons pas ici.
Tout à fait, exactement. Donc, l'allergie à la peinture n'existe pas, sachez-le. À l'époque, les médias commencent à faire monter le buzz, et Lucasfilm reçoit 130 demandes d'interviews par semaine. Le tournage en est déjà à 10 jours de retard.
Prowse prend toujours du plaisir à faire Dark Vador. Frustré qu'on ne l'entende jamais, il décide de changer certaines prises de parole. Ainsi, au lieu de « Les astéroïdes ne me concernent pas, je veux le vaisseau », il dit « Les hémorroïdes ne me concernent pas. Je veux le shit au lieu de sheep. »
Encore une fois, une autre version très amusante qui aurait été très intéressante. Le tournage prend 17 jours de retard quand Harrison Ford et Mark Hamill tombent malades. C'est pas bien. Si fort, Harrison Ford, finalement. Bon, Kirchner est en tout cas perçu comme faisant un excellent travail sur le film, quand bien même son rythme à l'anglaise s'adapte peu à celui de ses producteurs américains. Le budget du film grimpe du fait du retard et atteint le niveau de 20 millions de dollars.
Pendant ce temps, le prototype de Yoda est toujours en création. J'aurais pu leur suggérer quelques petites améliorations quant à la mâchoire.
Tout à fait.
Et peu de personnes travaillant sur le film l'ont déjà vu. Lucas rencontre également Alec Guinness, pas encore certain que celui-ci puisse reprendre son rôle.
Le salaire fera certainement le reste, nous le verrons plus tard. John Barry, qui vient d'être viré de la réalisation de Saturn 3, rejoint l'équipe comme directeur de la seconde unité de tournage. Un autre problème survient. Certains acteurs livrent des divulgateurs, comme on le dit au Québec, des spoilers aux journalistes, et notamment notre ami David Prowse. Il se retrouve donc avec des bouts de script ici et là, sans aucune connaissance de ce qui se fait avant ou après. Il a même parfois de faux dialogues. Comme il sera réenregistré, pas besoin pour lui de savoir ce qu'il se passe réellement, et ce pour éviter toute divulgation d'autres secrets du film. Il ose tout de même dire après, il y a vraiment trop de secrets autour de ce film.
Tu m'étonnes. Le 31 mai 1979, alors qu'il ne se sent pas très bien, John Barry court dans le bureau de Robert Watts et s'effondre face à lui. Il décède quelques heures plus tard à l'hôpital. La compagnie entière est sous le choc, et nous aussi. Et Lucas ira même jusqu'à dire que le film aurait été bien meilleur s'il avait toujours été en vie.
RIP et merci pour son travail. Les écrans bleus sont de plus en plus utilisés. Au grand désarroi des acteurs, notamment de Harrison Ford, qui a besoin de plus d'authenticité, n'est-ce pas?
Oh, quel homme!
68 jours après le début du tournage, eh bien, il y a 22 jours de retard.
Le 21 juin 1979 est tournée la scène de la carbonite. Ce décor est un véritable défi pour le chef opérateur, car il est loin d'être comme les autres. Il n'y a pas de mur, il n'a pas du tout l'air d'être terminé. Qui plus est, les répétitions sont une catastrophe, et de la fumée s'échappe en continu, provoquant systématiquement l'évacuation du plateau.
Voilà, on est prêt à tourner. Si vous voulez avoir une idée de l'atmosphère du plateau ou de la difficulté d'être réalisateur au milieu de ce marasme, nous vous conseillons vivement la lecture des 15 pages présentes dans le livre de Rinsler, tant elle détaille avec beaucoup de vérité cette réalité. C'est durant ce moment qu'ont eu les discussions sur la réaction de Han Solo au « Je t'aime » de Leia. Plusieurs prises sont essayées, à chaque fois, il est censé répondre « Moi aussi », mais Harrison Ford n'est pas convaincu, et Kershner lui dit « Eh bien écoute, improvise !» La suite est connue de tous les fans, Harrison improvise et déclare dans le film.
I know.
Exactement.
Ah. Le 25 juin 1979, le premier fils de Mark Hamill naît. Le jour où devait officiellement se finir le tournage. Seulement, avec le retard accusé, il reste encore 26 jours.
La force est puissante dans ma famille. Luke a ta fils ! Au milieu du mois de juin, ILM boucle son modèle de l'exécuteur, le grand croiseur stellaire de l'Empereur, et de Dark Vador aussi. Je vais me faire taper sur les doigts.
Oui.
Les problèmes de budget commencent à se faire sentir, et les dépenses sont scrupuleusement observées. Aucun recrutement n'est par ailleurs décidé, c'est bien dommage.
Oui, merci.
Je me serais bien proposé.
Merci, monsieur ressources humaines. Le 29 juin, dernier jour de tournage pour notre cher Harrison, une nouvelle blessure arrive à Mark Hamill qui se blesse au pouce. Le moral est au plus bas, il en faut peu le pauvre pour l'abattre. La fatigue s'accumule en même temps que les problèmes techniques. À titre d'exemple, Frank Oz décapite sa marionnette de Yoda en répétant.
I have a bad feeling about this. Juillet voit le tournage des scènes de combat entre Luke et Dark Vador. Le livre de Rinsler évoque certaines tensions entre Kershner et Hamill, à tel point qu'un meeting est organisé chaque matin afin qu'ils puissent parler tous les jours tranquillement et de faire en sorte que la journée puisse se passer dans les meilleures conditions. Voilà le niveau de tension.
Ouais. Le tournage de ces scènes est facilité par le fait que plusieurs plans sont prévus. Si bien que les duellistes n'ont pas à se rappeler de toute la chorégraphie. Le département construction des décors s'attaque alors à la planète Marécage. Il ne reste que 7 semaines pour la construire, contre 14 prévues initialement. Et cela ne se fait pas sans difficulté, vous pouvez vous l'imaginer, puisque le canon à l'eau explose littéralement quelques secondes après que Mark Hamill soit passé devant. Le pauvre, il s'est blessé au pouce, mais il a frôlé la décapitation et l'enfumage plusieurs fois.
Tout à fait, il y avait les malheurs d'Anthony Daniels dans l'épisode 4, ben là c'est les malheurs de Mark Hamill. Le 15 juillet, George Lucas himself débarque à Londres et compte y rester plus longtemps que prévu. Le budget est estimé à 30 millions de dollars et non 25 prévus, et plus de 30 jours de retard sont comptés au tournage. Les salariés sont payés en retard et Lucas doit trouver un nouveau prêt avec une nouvelle banque.
Entre le 13 et le 20 juillet, c'est le clap de fin pour Billy Dee Williams, Carrie Fisher et Anthony Daniels. Les scènes de marécage sont réduites, on comprend pourquoi. À ce moment-là, personne ne sait si Alec Guinness reprendra son rôle ou non.
Un nouveau prêt est trouvé alors avec la Bank of Boston, toujours compté sur les Américains. Le 26 juillet est tournée la séquence où Vador essaye de séduire Luke pour l'amener du côté obscur.
De la force.
Exactement. L'anecdote est célèbre. Quelques minutes avant de tourner et pour garder le secret intact, Lucas informe Mark Hamill de la phrase qui remplacera celle dite par David Prowse sur le tournage.
Je suis ton père.
L'acteur tombe des nues, évidemment. Et si la phrase ne sera placée qu'en post-production, c'est pour protéger le secret, notamment concernant David Prowse, qui s'illustre comme un divulgateur d'exception.
Mon Dieu, c'est le personnage le plus sinistre de la saga, et il faut que l'acteur divulgue tout. C'est triste. Pour ne rien arranger à la situation, la suite d'American Graffiti, film de Lucas, est un échec financier. Cela ébranle les certitudes déjà branlantes quant au résultat attendu pour la suite de Star Wars.
Tout à fait.
Si le film ne fonctionne pas, Lucas est assuré de finir sa vie endetté, criblé de plusieurs millions de dollars de dettes, et non dans un confortable ranch californien.
Tout à fait. Le 6 août, Yoda fait son apparition sur le tournage, et la pression est à son comble. Nous avons déjà assez de jours de retard, et si Yoda ne marche pas, le film s'écroule. Et ses dialogues sont les plus longs du film, d'ailleurs. Heureusement, les premiers rushs changent la donne et convainquent les membres de l'équipe.
Le tournage est une vraie partie de plaisir pour Mark Hamill, suspendu à 10 mètres pour les scènes finales de La Cité des Nuages, en contact avec des boas sur la planète Marécage. Il réalise quand même 95% du combat lui-même.
Fin août, Jeremy Bullock quitte le costume de Boba Fett, tandis qu'Alec Guinness confirme enfin son retour pour la
Il se fait prier.
Pour la somme de... Non, nous ne savons pas. 52 jours de retard sur le tournage, et Gary Kurtz, l'un des producteurs mythiques, est progressivement démis de ses fonctions, quand même, du fait des jours de retard, c'est toujours l'entraîneur qu'on vire quand ça va pas.
Alors qu'Alec Guinness achève son seul, unique et dernier jour de tournage, Mark Hamill boucle son 100e. Le 9 septembre, Kirchner décolle vers les États-Unis et le 11 septembre, Mark Hamill rend son tablier. Il a terminé. Un nouveau défi attend la production. La post-production, justement, qui est déjà amputée de pas mal de jours compte tenu de tous ces retards. Mais ça, c'est une chose dont on vous parlera au prochain épisode.
Tout à fait. Merci beaucoup à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette 5e édition de Star Wars Making of, qui s'est un peu fait attendre du fait de Maître Yoda présente ici. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur le site officiel, mais également sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Nous évoquerons donc en 6e émission la post-production de l'Empire Contre-Attaque qui s'annonce très bien. Merci au leader suprême et merci à David qui s'occupe de notre post-production à chaque fois.
Merci aussi à vous tous de nous écouter, de nous encourager. Après notre retour pour l'épisode 5, on a vu bon nombre de personnes partager le post en disant « Merci Margot et Martin, merci Star Wars en direct pour ces émissions qu'on apprécie beaucoup. » Mais c'est des choses qui nous ont pas mal touchées. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur le web. N'hésitez pas à partager vos commentaires.
Exactement. Nous remercions nos partenaires siteclan.net, mintinbox.net, starwarsvolume.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, makingstarwarsfrance.net et Génération Star Wars et science-fiction.
Eh bien, de la part de Martin Nouche et moi-même,
oui.
Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.